Le journal sur RFI vous était présenté par Nathaël Vitran. Et pour l'heure, on retrouve Edmond Sadaka. Bonjour Edmond.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et c'est l'heure de votre rendez-vous consacré à l'actualité d'Haïti et des Amériques. Bienvenue à toutes et à tous. Dans un instant, on va parcourir la presse américaine avec Romain Lemaresquier. Bonjour Romain.
Bonjour Edmond, bonjour à tous.
Vous allez revenir entre autres sur le Salvador où continue cette grève forcée des chauffeurs de bus. On ira au Québec où depuis plusieurs années déjà les concours de rodéo ont de plus en plus de succès. C'est ce que nous dira Pascal Guéricola dans son reportage. Le dossier Haïti du jour. Amélie Baron et on parlera de la mode éthique, une mode qui permet aux artisans des pays du Sud de travailler avec les maisons de haute couture. Le journal d'Outre-mer Première, ce sera en compagnie de Clément Guerre. Voilà pour le programme. Et on commence avec vous, Romain Lemaresquier, la revue de la presse des Amériques. Elle a une, les suites de cette grève forcée des transports au Salvador, grève dont on a parlé hier, à cette même heure. Une grève imposée par les MAS, des gangs qui ont la main mise sur tout le pays.
Oui, avec une évolution hier, quelques lignes de bus ont repris leur activité suite à l'appel de certains chefs de MAS qui les ont autorisés à reprendre leur travail, nous apprend ce matin le quotidien El Salvador. Mais le journal précise que cela ne concerne que certains secteurs, les bus qui circulait hier bénéficiait tout de même d'une protection de la part des autorités avec deux agents lourdement armés dans les véhicules. Selon El Salvador, les autorités salvadoriennes maintiendront ce dispositif le temps nécessaire. Elles ont par ailleurs réaffirmé leur rejet du chantage exercé par ces gangs selon la Prensa. Pour rappel, ces derniers exigent des autorités de participer aux discussions du Conseil de sécurité constitué par le gouvernement et la société civile afin de trouver des solutions à la violence qui frappe ce pays.
Et pendant ces quatre jours de grève forcée, comment les Salvadoriens se sont-ils débrouillés pour se déplacer?
Et c'est justement le thème d'un article du quotidien La Prensa qui explique qu'il a fallu faire preuve d'ingéniosité parfois. La première option était ce que l'on appelle les microbus privés, des transports qui n'étaient pas visés par cette grève forcée, mais qui étaient du coup très sollicités et bondés du matin au soir. Certains Salvadoriens tentaient même de s'installer sur les toits des véhicules pour se rendre sur leur lieu de travail, détaille le quotidien. La seconde option, les taxis collectifs, des taxis qui transportent jusqu'à 8 personnes, mais à un tarif très cher comparé au transport public. Autre solution, preuve que malgré la violence qui frappe ce pays, le civisme est toujours d'actualité. Les propriétaires d'utilitaires et de pick-up emmenaient gracieusement des passagers. Mais les moyens les plus employés selon le quotidien étaient la marche, les chevaux, les vélos et même les monocycles. Pour rappel, durant ces 4 jours de grève, 8 chauffeurs de bus ont été abattus par les MAS.
Aux États-Unis, un nouveau drame à Washington et qui va certainement raviver le débat sur les armes à feu.
Cela s'est passé dans la soirée de mercredi dernier, raconte aujourd'hui le Washington Post. Une petite fille de 3 ans d'Alice Cox qui jouait avec son frère de 7 ans a été abattue par ce dernier, certainement de manière accidentelle, estime la police. Une balle dans la poitrine qui lui aura été fatale. La petite est décédée 90 minutes plus tard à l'hôpital. Mais les enquêteurs se demandent comment cette arme, qui n'apparaît dans aucun registre officiel, a atterri entre les mains de cet enfant. Le père de la victime, Timothy Cox, qui n'habite plus avec la mère de ses 3 enfants, affirme qu'il n'y avait pas d'arme dans cet appartement. La mère, présente sur le lieu du drame au moment des faits, ne s'est toujours pas prononcée publiquement. Le choc a été tel qu'elle est incapable d'expliquer les faits, détaille le quotidien. Pour la police, il s'agit d'un accident, mais elle veut comprendre comment cette arme a fini entre les mains d'un garçon de 7 ans.
Toujours aux États-Unis, Romain, le quotidien USA Today a mené une enquête sur les conséquences des poursuites entre la police et les délinquants.
Oui, c'est même un web documentaire très détaillé qui a été publié sur le site du quotidien. Depuis 1979, 5000 personnes sont décédées à cause de ces courses-poursuites, des personnes qui n'étaient pas forcément visé par la police. Cela représente, selon le quotidien, un mort par jour. Cette enquête fait la une du quotidien ce matin. Parmi les victimes, on compte beaucoup d'enfants, d'adolescents et de personnes âgées. USA Today donne quelques exemples. Le 7 juin dernier, par exemple, une grand-mère de 63 ans est décédée à Indianapolis durant une course-poursuite avec la police. Elle avait été prise en charge pour un vol à l'étalage. Le 17 juillet, un jeune homme de 25 ans est mort durant une course-poursuite car il avait brûlé un feu rouge. Et pour vous donner une ampleur de cette pratique de la course-poursuite, en Pennsylvanie depuis 1997, 32 000 prises en chasse par la police ont été recensées. Enfin, dernier chiffre que je vous cite, 270 000 personnes ont été blessées suite à ces courses-poursuites depuis 1979. Une enquête très exhaustive à retrouver sur le site de USA Today.
Merci, c'était Romain Lemaresquier pour la revue de la presse. Dans un instant, direction le Québec et on va parler de rodéo, heureusement beaucoup moins meurtrier.
La chronique des Amériques.
Le Québec où depuis quelques années les concours de rodéo prennent de l'ampleur, un engouement populaire pour une tradition qui vient de l'Ouest américain et qui va de pair avec un plus grand intérêt porté aux chevaux. Et notre correspondante Pascale Guéricola a assisté à l'un de ces spectacles très enlevés. Écoutez.
Pendant trois jours, la petite localité de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, un jet de pierre de Québec, prend des allures de ranch à ciel ouvert. Chevaux, taureaux, veaux et cow-boys s'y côtoient sur fond de musique country. Pierre Dolbecq, le maire de la municipalité, constate que l'intérêt pour ce genre d'événement grandit.
C'est un retour en nature jusqu'à un certain point, puis je pense que la question des chevaux et du rodéo en fait partie. C'est un sport qui prend beaucoup de place chez nous depuis quelques années, puis on est en train réellement de se bâtir une belle banque de cavaliers et de cow-boys là, qui sont très performants, très représentatifs.
Un peu partout, à travers le Québec, on retrouve l'été des festivals western où se rencontrent près d'une centaine de cow-boys comme Pascal, un jeune homme qui pourtant n'a jamais fait d'équitation. Juste avant le rodéo, il prend connaissance du nom du cheval non dressé sur lequel il va essayer de rester au moins 8 secondes.
C'est une dose d'adrénaline pure et simple. C'est... Dans la tête, il se passe plus rien. Tout ce qu'il y a, c'est une grosse décharge d'adrénaline puis c'est indescriptible. Moi, j'ai pogné Wild Sage. C'est un cheval qui est correct. C'est juste qu'il ne faut pas aller trop proche de sa tête parce que sinon, il vient fou, ça a l'air.
Cette jeune fille prend plaisir, elle, à ligoter un petit bœuf.
J'attrape les cornes. Une fois qu'ils sont attrapés, là, j'attache le veau après ma selle, puis mon cheval tire le veau. Là, ben, les pattes en arrière, c'est mon partenaire, mais ils veulent tous faire équipe avec moi, exemple.
Même si le Québec n'a aucune tradition de troupeau traversant les grandes plaines comme dans l'Ouest américain, le rodéo s'implante comme un loisir et un sport, au grand plaisir de ce spectateur aux premières loges qui confie ce qu'il aime dans l'événement.
L'odeur du cheval, quelle eau, l'ambiance, l'alcool, tout ça mélangé ensemble, ça crée une ambiance de cow-boy. J'adore ça. J'adore cette ambiance.
Sur la piste, entourée de gradins, les traditionnelles disciplines du rodéo défilent sur fond de décibels en folie. Les chevaux se lancent au galop, les taureaux ruent des quatre pattes et parfois les cowgirls échappent leurs veaux.
Malheureusement, j'ai eu un mauvais départ. J'ai tenté de lancer très rapidement, mais j'ai manqué un petit peu d'angle dans mon lasso. Donc le lasso a descendu jusqu'au nez, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment que ce soit une attrape uniquement par le coup, parce que c'était pas suffisant. Mais j'ai eu le privilège, dans le fond, l'année passée et l'autre année avant, dans le fond, de gagner l'année et la finale de l'association de cette discipline-là.
Ils sont pas mal tenaces.
Un spectateur admiratif.
Franchement, ils sont pas mal tenaces, pas mal résistants face à ce défi-là qui est le rodéo. Ils sont très, très bons de pouvoir suivre le rythme comme ça, que leur impose leur animal.
Même si les cowboys québécois ne gagnent pas leur vie en selle, ce loisir se popularise notamment grâce à une école lancée justement à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, là où la compétition a eu lieu fin juin. Une façon pour les Québécois de se souvenir qu'ils sont aussi des Nord-Américains. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Merci de nous écouter. Dans un instant, on part à Port-au-Prince et on va parler de la mode éthique juste après une courte pause.
Son univers musical est largement influencé par la tradition du Mali. Pourtant, elle est extrêmement moderne. Rokia Traoré. Rokia Traoré et plus de 350 artistes.
À voir, à lire, à écouter.
Sur rfimusique.com.
RFI, 13h19 à Bamako, 9h19 à Port-au-Prince. Le dossier Haïti aujourd'hui, c'est donc une rediffusion d'un reportage de notre correspondante Amélie Baron, reportage consacré à ce qu'on appelle la mode éthique. Il s'agit de permettre aux artisans des pays du Sud de travailler avec les maisons de haute couture tout en respectant leurs conditions de travail, en respectant l'environnement aussi. C'est par exemple l'objectif de l'Ethical Fashion Initiative, un programme né en 2009, soutenu par l'ONU et par l'Organisation Mondiale du Commerce. Concrètement, une trentaine de grands couturiers sont impliqués dans l'aventure. Ils passent des commandes aux artisans du Ghana, du Kenya, du Burkina Faso, par exemple, d'Haïti également, justement. Et c'est là-bas qu'Amélie Baron a rencontré une créatrice de mode italo-haïtienne qui participe à ce programme. Écoutez ce reportage.
Ancien mannequin, Stella Jean a lancé sa marque en 2012 et aujourd'hui ses créations sont notamment plébiscitées par les chanteuses Beyoncé, Rihanna. L'une de ses envies premières, que les gens changent de regard sur le pays de sa mère.
Il faudrait commencer à voir, à mon avis, Haïti avec des autres yeux et j'aimerais que les gens arrêtent de me dire quand je dis je suis à moitié haïtienne, à la pauvre, je n'ai pas aucune raison d'être pauvre pour ça, au contraire.
L'angle, parce qu'il n'y a même pas assez d'épaisseur pour les faire.
Au cœur du centre-ville de Port-au-Prince, Stella Jean discute avec les artisans qui travaillent la corne de bœuf de la forme du bracelet qu'elle souhaite avoir pour sa prochaine collection. Une relation normale de travail.
On ne parle pas de charity ici. Comme je dis, la charité, c'est un instrument. Et c'est une des choses la plus négative au monde. On est là à apprendre. J'apprends tous les jours avec les artisans. Je leur parfois explique ou apprends ce qui est mon point de vue, mon know-how italien. On est au pair là. Et si on ne commence pas à comprendre ça, il n'y a pas éthique qui va tenir. Parce qu'on va continuer avec cette mentalité impérialiste, cette mentalité de colonisateur. Ce que je suis en train d'essayer de faire avec la collection, c'est une espèce de contre-colonisation. Le nord du monde a imposé sa culture, ses costumes, sa mode, sa façon de voir les choses au sud. Mais non, le sud est en train de remonter vers le haut. Mais ça ne sera pas une colonisation violente, mais ça sera une rencontre. Parce que je ne peux pas penser d'utiliser ceux qui sont des éléments de l'histoire de ces pays seulement d'une façon esthétique. Ça serait un manque de respect. Et les gens commencent à t'expliquer pourquoi une fleur plutôt qu'un autre, une couleur plutôt qu'une autre. C'est plus une mode qui peut être considérée seulement belle. Il faut commencer à utiliser la mode comme instrument de formation et information. Comme j'ai dit, parfois, dans les tissus, on trouve parfois plus d'histoire d'un pays que de celle qu'on peut trouver sur Wikipédia.
L'effondrement de l'usine textile au Bangladesh en 2013, qui a tué plus de 1100 personnes, a bouleversé le monde de la mode et Stella Jean milite contre la fin de l'exploitation des ouvriers du Sud, engendrée par ce qu'elle appelle la boulimie de consommation.
C'est pas normal acheter des vêtements chaque jour, les jeter, de toute façon ça m'a coûté 2 euros, je veux même pas le réparer, je vais acheter des autres. Ça c'est vraiment quelque chose, c'est une relation malade. La mode est surtout ce qu'on veut exprimer et on recommence à apprécier, à peut-être acheter un peu moins, mais un peu plus de qualité, à comprendre ça vient d'où. C'est vrai que je peux acheter avec 10 $, 2, 3, 4 choses, mais après je vais payer, on le paye, on est tous dans la même planète. On n'est pas dans un world apart où il y a ceux du Bangladesh ou du Taïwan ou de n'importe où qui travaillent comme des esclaves. Je m'en fiche, moi j'ai bien payé ces 2, 3 choses. Non, c'est un boomerang. Donc, ou on le comprend, alors on commence à s'appliquer dès maintenant, ou de toute façon le boomerang va nous frapper si fort qu'on sera obligé de changer.
Et cette mode éthique que Stella et les autres membres de la Ethical Fashion Initiative permettent dès aujourd'hui aux artisans haïtiens de mieux travailler et de pouvoir envisager leur avenir dans leur pays. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Il est présenté par Clément Guerre. Bonjour Clément, et on commence aujourd'hui par un acte raciste qui agite les réseaux sociaux en Martinique.
C'est la phrase d'un métropolitain qui ne passe pas. Nos chiens sont plus propres que vos femmes, j'en ai rien à foutre du panneau d'interdiction. C'est la réponse raciste d'un métropolitain à la suite de l'interpellation d'un Martiniquais. Le vacancier baignait son chien sur une plage de Sainte-Anne, alors que la baignade des animaux est interdite. Les faits se sont déroulés il y a un peu plus d'une semaine sur la plage de Lanscaritan. Richard Jean-Marie, indigné depuis, raconte sa mésaventure sur les réseaux sociaux, ce qui a suscité la colère des internautes. Guy Etienne de Martinique Première a pu le joindre au téléphone, on l'écoute.
En fait, quand je lui ai fait remarquer que son chien ne peut pas se baigner en même temps que tous les gens dans l'eau ni sur la plage, le monsieur il m'a dit que si je reste là pour tester devant lui, qu'il m'envoie le chien. Et à ce moment-là, le chien est sorti, mais quelqu'un d'autre a pris le chien et allait l'attacher. Et il continue à m'invectiver et tout, en me disant que ça fait 20 ans qu'il est en Martinique, que personne ne lui fera enlever le chien de la mer, ni toujours sous la plage, et qu'il a l'habitude, qu'il n'a rien à foutre des panneaux d'interdiction de la plage aux chiens. Les autres baigneurs martiniquais qui étaient là, ils se sont rapprochés. Il y en a un qui était dans la mer en train de faire de la plongée sous-marine, il s'est rapproché et il a dit « Le chien, s'il est dans l'eau, je l'ai harponne aussi. » Et les autres martiniquais ont pris fait les causes. Et je leur ai dit aussi qu'un chien, quand ça fait des déjections sur la plage, ça donne des vers à chien. La police de Sainte-Anne était injoignable, donc il n'y avait personne peut-être au poste. Et le soir, en partant, je suis passé à la gendarmerie du Marin pour dire que je vous ai attendu, je ne vous ai pas vu.
C'est la première fois que vous étiez confronté à une telle attitude ?
C'est la première fois, oui. C'est la première fois que quelqu'un me sort que leur chien serait plus propre que nos femmes, c'est-à-dire nos mères, nos sœurs, tout ce qu'il y a comme femmes en Martinique, martiniquaises, guadeloupéennes, les noirs en général. Donc il y a une justice, on va déposer une plainte. Si la justice elle est juste comme on dit, elle va faire le nécessaire.
Toujours en Martinique, quatrième étape du Tour des Yoles Rondes, course à la voile très populaire. C'est une nouvelle victoire de l'UFR Champflore. Demain, c'est la journée de repos, mais ce week-end, les bateaux repartiront de la ville du Prêcheur. En Guadeloupe maintenant, pénurie d'eau, manque de terres agricoles. Les agriculteurs guadeloupéens connaissent de nombreuses difficultés dans l'exercice de leur métier. Sur le marché de Gourdeliane, Christiane Martial a rencontré deux agriculteurs qui ont trouvé la solution au manque d'eau.
Jérôme et Jean-Baptiste Moutoussamy ont respectivement 18 et 16 ans. Installés sur les terres familiales, les frères Moutoussamy cultivent un peu de tout, mais en cette période de sécheresse, ils se sont adaptés.
Pour l'instant, dans les petits concombres, nous, on n'a pas problème d'eau, vu que parfois, ça pousse sans eau aussi. On s'adapte avec le manque d'eau, parfois, la sécheresse.
On fait tous les produits qui ont besoin de moins d'eau, quoi, comme ce concombre, miam.
Et ils ont été inspirés. Sur le marché, le petit concombre à la côte, les clients en raffolent.
Des personnes plus âgées qui viennent, qui en veulent, c'est pas un produit qu'on voit tout le temps. Dans l'agriculture, il faut savoir faire des produits qu'il n'y a pas sur le marché. Des produits très rares, c'est sûr que tu vas avoir en vente.
Jérôme et Jean-Baptiste nous disent être des agriculteurs heureux. Hors micro, ils nous disent même que demain, ils seront peut-être les rois du pétrole. Certains que la population reviendra inévitablement aux produits du terroir.
Fin de cette édition, bonne journée.
Bonne journée à vous également, Clément Guerre. Et comme tous les vendredis, on va se quitter avec de la chanson francophone. On découvre les tout derniers albums sortis et aujourd'hui c'est un groupe incontournable de la scène reggae française que l'on va écouter, le groupe Since Emilia qui a sorti tout récemment un dernier album baptisé Un autre monde est possible. On en écoute un extrait, ça s'appelle justement Un autre monde est possible, Since Emilia.
Tu peux fermer tes frontières. Tu peux dresser des miradors entre toi et la misère pour protéger ton trésor. Que penses-tu régler ? Qui crois-tu stopper ? Un homme affamé est un homme en colère. Regarde le flot incessant se jeter à la mer. Que ferais-tu à leur place ? Que veux-tu qu'ils fassent ? Que ces gens baissent la tête ? En attendant que ça passe ? Non, non, ces hommes ont des droits. Celui de vivre et de nourrir leurs gosses. Tu sais ce genre de droit que méprise la négoce. Quand une poignée de sangsues se partage les richesses du monde. Les richesses de tout le monde. Les richesses de tout le monde. Ça parie, ça spécule, ça calcule les profits. Mais jamais, jamais ne recule à sacrifier des vies. Pourtant il y a tout ici, tout pour que tout soit nourri. Oui, il y a tout ici, pour qu'à tous, l'avenir sourit.
Notre monde est possible, le groupe français Since Emilia. On referme donc ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans 30 secondes, un point de l'actualité complet sur la Radio du Monde. Merci à Jenab Sangaré et Vincent Ribaud qui étaient à la réalisation et à la technique.
Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Les villes du Moyen-Orient. Cette semaine, nous visitons Téhéran, capitale de la République islamique d'Iran. Une ville moderne par bien des aspects, malgré la présence de la police religieuse. Nous évoquerons également le soufisme, une façon très intimiste de pratiquer sa religion dans l'islam sunnite.
Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Demain, à partir de 21h10 TU.
RFI.